Selon la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 16 à partir du verset 1. Jésus nous dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. À ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Si nous étions venus d'ailleurs d'un monde obscur, d'un monde de ténèbres, où on ne croit ni à l'existence de Dieu, où on croit que tout a été fait par le fait d'hasard, et que nous sommes là par la nature, comme beaucoup l'expliquent, et que nous venons, nous trouvons cette parole qui est inscrite ceci, la parole qui nous parle de le commencement de l'existence des choses. Il y a de quoi réfléchir un tout petit peu là-dessus. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à quitter notre ancienne croyance, notre ancienne interprétation des choses, et toutes les explications qu'on a pu donner pour la simple présence des choses, de la planète, du soleil, de la lune et tout ce que nous voyons. Quand on entend cette parole, elle nous invite à quitter notre ancienne compréhension pour entrer dans la nouvelle, et non pas sans preuve, avec de preuves. Ici, Jésus, quand il parle, il nous dit, il disait à ses disciples à ce moment, il dit déjà, il explique déjà des choses qui vont venir, afin que quand ces choses arriveraient, que nous puissions nous souvenir qu'il nous avait dit, et donc, ce n'est pas une surprise. Mais ce qui est bien dans tout cela, il a été avec les disciples comme le consolateur, le protecteur, la main de Dieu, la puissance de Dieu, parole de vérité, faisait des miracles, celui qui ressuscite le mort. Ainsi, les disciples, mettez-vous à leur place au temps de Jésus-Christ. Après la résurrection de Lazare, qu'est-ce qu'ils se disaient entre eux? Je crois qu'ils se disaient ce que cela veut dire. Je peux mourir aujourd'hui, mais Jésus va me ressusciter. Ils voyaient les choses dans un autre monde, une autre façon. Jésus est parti en nous laissant ses messages. Ce qui nous donne aujourd'hui la force de croire et de continuer à croire, ce sont les faits qui continuent à se manifester jusqu'à ce jour par rapport à la parole qu'il nous avait laissée. C'est à cause de cela que nous aujourd'hui, je me disais, si je dois aller quelque part dans une source d'eau, par exemple, pour prendre de l'eau, et que j'y arrive, que je ne trouve pas de l'eau, et que je trouve la source à sécher, je garderai cet aspect des choses, je me dirai, il faut que je trouve une autre source, car là, je n'ai pas trouvé d'eau. Si quelque chose se répète, si on fait deux fois le marché, trois fois la marche sur quelque part, ça veut dire que nous sommes convaincus qu'en allant chercher ce que nous cherchons, nous allons trouver. Venir vers le Seigneur prend beaucoup de notre vie. On ne nous verra plus avec les anciens amis. Nous allons nous séparer de beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de modes de vie que nous sommes censés délaisser pour venir vers Christ. Comme Jésus l'a dit dans le parabole du trésor caché, celui qui trouve ce trésor caché, il va vendre tout ce qu'il avait, se débarrasser de tout ce qu'il avait parce qu'il vient de trouver un trésor qui répond à toutes ces questions. À tout ce qu'il avait besoin, il a trouvé les trésors, il a trouvé la réponse. Il y a donc une raison qui nous attache à Christ, et c'est cette raison-là. Le Seigneur disait, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas encore prêts. à comprendre et à saisir le sens. Cependant, dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, à partir de verset 3, Jésus-Christ a énuméré certains personnages dont il déclara « Errez serez-vous, vous, les pauvres en esprit, errez les affligés, errez les débonnaires, errez ceux qui ont faim et soif de la justice, errez les miséricordieux, errez ceux qui ont le cœur pur, errez ceux qui procurent la paix, errez ceux qui sont persécutés. Errez serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Errez celui qui je serai pas pour lui une occasion de chute, mais errez sont les yeux, parce que vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles attendent. Quand il a prononcé cela, toutes ces choses-là énumérées, comme je viens de faire la liste, que nous pouvons reprendre la lecture avec toute facilité. Jésus n'a pas avancé ses paroles à tout hasard ou pour seulement être éloquent dans son discours, mais il nous a dit la vérité. C'est vrai, toute cette situation, quand il nous arrive, quand il nous arriverait, et quand dans le futur nous allons affronter cela, puisque nous avons mis toute notre espérance à Jésus-Christ, nous sommes heureux, parce que nous verrons la réponse. Ce qui nous tient aujourd'hui et encore demain envers Jésus-Christ, notre relation avec le Christ, ce qui nous soutient, c'est ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de continuer à se faire jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, il peut avoir un miracle, sa manifestation. Chaque jour, il nous suffit seulement d'avoir les yeux bien ouverts, de regarder et d'observer les choses. Et tu pourras dire « oui, c'est vrai ». Car il y a beaucoup de paroles qui nous enseignent dans ce sens. Et même la nature elle-même de chaque jour nous enseigne aussi dans ce sens. On ne croit pas pour croire. Nous croyons parce qu'il y a une raison. Nous ne croyons pas par héritage de la croyance pour que dire que nous sommes dans une certaine tradition coutumière ou une tradition d'un certain peuple ou qu'une certaine culture que nous avons. Non. Aujourd'hui, chacun a son témoignage, un témoignage propre entre lui et Dieu. Aussi longtemps que tu demeureras, tu vas accumuler ces témoignages. Il l'aura fait chez toi, il l'aura fait chez tes enfants, il l'aura fait aussi chez tes petits-fils, il le fera dans ton métier, dans ton travail, dans ta maison. Il va accumuler ces choses et le Seigneur ne les compte pas. Aussi longtemps que tu demeures là, cela viendra. Ce que le Seigneur répète ici, « Errez, 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 serez-vous dans toutes ces choses, c'est-à-dire tous ceux qui ont mis toute leur espérance en moi, errez, serez-vous, car ces choses-là arriveront et nous pourrons vivre cela. » Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ces paroles que nous entendons, bien-aimés, la raison de notre foi, c'est la raison de notre persévérance, c'est la raison de croire et de continuer à croire. Autrement, comment on peut justifier notre foi et notre persévérance par rapport à un milieu quelconque où nous serions partis si nous ne voyons pas ce que nous cherchons? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas avec des sorciers? Pourquoi on n'est pas chez les marabouts? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas vers les gens qui font les cartes? Parce que nous savons que tout ce qu'ils font, ce sont des charlatans. Ils cherchent l'argent parce qu'ils n'en ont pas. Alors ils font de n'importe quoi, mais leur objectif, ils cherchent comme nous tous, ils cherchent la paix que seul Dieu garde. Mais ceux qui se laissent, peut-être par ignorance, conduits par ces gens-là, vous pouvez demeurer. Bien au contraire, c'est le contraire qui va t'arriver. Parce qu'à ce moment même, ce que tu cherches, tu ne trouveras pas. Et même que tu es en train de t'éloigner de Dieu, tu es allé en profondeur dans les ténèbres de plus en plus à chaque fois que vous serez là, parce qu'il y a une loi qui interdit cela. Et cette loi vient de celui qui nous a créés. Quand Dieu dit que je vous ai créés pour la paix, pour le bonheur, pour la joie, pour la vie, il est impossible que nous nous trouvions maintenant dans l'autre sens pour dire je vous ai créés pour le malheur, pour la pauvreté, pour la mort. Ce n'est pas vrai. C'est tout à fait contraire à la volonté de Dieu. Ne connaissant pas donc Dieu, oui, certains jugements sont portés envers Dieu parce qu'on ne les connaît pas. Mais en réalité, Dieu est amour. Pour mieux connaître Dieu, connaissons d'abord le Christ, qui lui était parmi nous. Sa vie, sa justice, son amour, sa parole, tout ce que Jésus a dit, nous décrivent avec exactitude ce qu'est Dieu dans son caractère, dans son comportement, dans son jugement, dans sa justice, dans tout ce qu'il fait. Nous pouvons voir cela en Jésus-Christ. Et Jésus, ce qu'il disait et ce qu'il faisait, il le faisait par l'Esprit de Dieu. Je le vis faire à mon Père. Je vis mon Père. C'est ce qu'il faisait. Et ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu de mon Père. Ah, il nous a transmis cela. Si nous croyons, c'est parce que nous trouvons là des réponses que le monde ne pouvait pas nous répondre. Et nous voyons également la puissance, ce qui montre clairement que Jésus est bel et bien vivant. Autrement, on ne serait pas là pour prier un mort. Un mort, quoi qu'on fasse, même s'il a été bon, mais s'il ne vit plus, c'est une carcasse, ça ne sert à rien, tas d'ossements. Vous pouvez pleurer là-dessus, il n'y aura rien. Mais ce n'est pas le cas avec Jésus. Jésus est vivant. C'est qu'il marche avec nous, il nous écoute et il intervient dans notre vie. Il intervient en tant que Dieu. C'est-à-dire, nous avons des propositions, mais lui dispose de tout. Après avoir écouté tout ce que nous voulons, lui prend maintenant des dispositions dans sa manière de voir comment il agit et comment il agira. Mais tout ce que nous savons, sa parole est une parole de justice. Il ne fait rien pour rien. Quand plus tard nous aurons regardé, nous comprendrons qu'il est vraiment le Dieu de la justice. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui donc, je dis, c'est pour que nous ayons un sens. Pourquoi nous croyons? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous devons continuer à prier? Si c'était devenu une source qui n'a pas d'eau, je n'ai pas honte de dire que je m'arrête et je ne viendrai plus ici. Car je vais profiter de mon temps et utiliser mon temps avec sagesse, avec intelligence, pour ne dire que je ne veux pas perdre mon temps. Mais si je suis encore là, car je sais, je ne perds pas mon temps. J'ai trouvé ma foi, j'ai trouvé la raison de ma vie. J'ai trouvé ce que je cherchais depuis mon enfance. J'ai trouvé l'ombre qui aujourd'hui me protège contre tout. J'ai trouvé le bouclier, j'ai trouvé la vie, j'ai trouvé la vérité. J'ai trouvé toutes les raisons de mon existence. Finalement, j'ai tout compris. J'ai compris la naissance, j'ai compris la mort. J'ai tout compris. Et c'est à cause de cela que je fais confiance. Et chaque jour, le Seigneur me reconfirme encore une fois. Ça ne s'abaisse pas, mais ma confiance envers Dieu croît. Elle grandit de jour en jour, de gloire en gloire, au point où ce n'est plus possible de me séparer de Dieu. Plus possible. Il m'a convaincu jusqu'au bout des doigts. Maintenant, toute ma vie est en lui. Alors, j'accepte tout. Que je ne comprenne pas, mais je sais que le dernier mot, c'est lui. Et quand il dira ce dernier mot, ça sera le bonheur pour tous ceux qui ont écouté, ceux qui ont marché avec le Seigneur. Oui, ce sera le bonheur. Ce sera le bonheur que nous allons hériter. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, pour dire aujourd'hui ce que je vais dire, nous avons fait affaire à un Dieu vivant. Nous avons affaire à un Dieu miséricordieux, un Dieu de la promesse, un Dieu qui nous explique, qui ne nous laisse pas sans explication, qui ne nous laisse pas dans le mystère, mais il nous explique tout. Il nous a prévenu sur tout. Il répond à toutes nos questions. Je trouve dans le livre des Psaumes 144, au verset 15, Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Comme on disait, Dieu est Dieu de ceux qui le croient comme Dieu et leur Dieu. Alors lui-même accepte d'être son Dieu. Et si on ne fait pas confiance à ce Dieu qui est notre Dieu et qu'on se confie à d'autres choses qui ne sont pas de Dieu, malgré que ce ne sont pas de Dieu, elles seront pourtant Dieu pour toi. Donc, Dieu de rien, Dieu qui n'existe pas, et on fait de ça Dieu. Mais notre Dieu est un autre, le véritable, le vrai. Et celui qui garde sa parole, il accepte d'être notre Dieu. Ce que je venais de dire des 146 du livre des Psaumes, verset 5, et reste celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir à l'Éternel, son Dieu. Ainsi, c'est ça qu'on appelle la sagesse. La sagesse à son Dieu. C'est quoi la sagesse? C'est de venir vers le vrai Dieu, de reconnaître que ce Dieu est vivant et que nous sommes ses enfants et qu'il est tout près de nous et qu'il ne nous a pas abandonnés. Nous ne sommes plus seuls, nous ne sommes pas les orphelins et il est là justement pour résoudre l'impossible de notre vie. Tout ce que tu appelleras impossible ou tu te diras « je n'arriverai jamais », c'est Dieu qui peut le faire. Pas seulement dire qu'il peut le faire, mais il le fait. Autrement, à quoi ça sert? J'aime être sincère. En acceptant Christ, on ne m'avait pas séduit par quelqu'un. Personne n'est venu me parler pour dire tout cela. J'ai été convaincu par la parole et par les actes, par les prodiges de notre Dieu. Cela m'a convaincu. J'ai donc de bonnes raisons de dire « je crois », parce que je sais, parce que c'est comme ça. Mais si Dieu m'a abandonné pour que je me trouve avec les choses que je peux faire, que je le fasse, et les choses que moi je ne peux pas faire et qui ne peuvent pas intervenir, alors je dirais, c'est Dieu. En tout cas, il ne pense pas à moi. Il n'intervient pas dans ma vie parce qu'il m'abandonne. Je serai sincère pour le dire. Mais s'il le fait quand même, alors soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants parce que nous lui devons ça. Ne serait-ce que pour lui dire merci pour ce qu'il a fait. Je crois et je suis aujourd'hui, je vis dans la vie de Christ, j'ai de bonnes raisons. Je ne dirai jamais parce que le pasteur m'a dit. Oui, il m'a dit un jour, mais le Seigneur a confirmé ça un autre jour. Et c'est pourquoi je suis là. Si le Seigneur n'avait pas confirmé ça, j'aurais mis en doute. Je me serais dit, ah, ce n'était qu'un livre qui parle bien, mais quant aux actes et aux œuvres, je ne vois pas cela. Pourquoi l'homme à qui Jésus a une fois mis de la boue dans les yeux parce qu'il était aveugle, pourquoi Jésus a dit « Dis-moi comment tu vois ?» Et l'homme a répondu avec sincérité. Il a dit « Je vois, mais pas tout à fait, car je vois des hommes comme des arbres. » Il y a une petite confusion. Alors Jésus a mis pour la deuxième fois. Vous croyez vraiment que c'est parce que Jésus n'est pas arrivé la première fois, à la seconde fois que c'est fait? Non, c'est pour nous faire comprendre. Ne dis pas oui pour dire oui, même pour Dieu. On ne dit pas oui pour dire oui parce qu'après, quand tu devrais agir parce que tu avais dit oui, si tu ne sais pas pourquoi tu avais dit oui, ton oui-là ne sert à rien. Ou tu as dit oui pour le plaisir des hommes, pour faire plaisir aux gens. Et c'est comme ça que l'Église, quelquefois, les gens répondent tous « Amen ». Même s'il n'a pas compris la phrase « Amen ». Mais dis « Amen » parce que tu as entendu, que tu as compris, parce que tu as été convaincu et que tu mets « Amen » parce que tu es d'accord avec ça. Mais je sais beaucoup de gens qui disent « Amen ». Et si vous les piégez, vous renversez la phrase, ils vont dire encore « Amen ». C'est-à-dire, parle sans réfléchir. Mais nous ne sommes pas comme ça. Ce n'est pas cela la sagesse. Dieu ne nous a pas mis comme des aveugles. Dieu ne nous a pas mis là pour dire oui, 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 comme ça. Non, exprime-toi. Je crois que dans la parole de Dieu, il dit « invoque-moi, parle, exprime-toi et que moi je parle. Défends ta cause et que moi je parle. Et puis, regardons ça ensemble. » C'est une invitation à le dialogue juste, un dialogue dont Dieu de l'autre côté, avec sa créature dont il nous a donné la capacité de pouvoir nous exprimer. Ce que Dieu prend plaisir, c'est surtout quand nous parlons avec franchise de ce qui est dans le fond de notre cœur, sans crainte, sans rien, devant lui, et que nous lui disons exactement ce que nous ressentons. Ce serait une bonne chose. Regarde un peu Abraham, son dialogue avec Dieu. Dieu dit qu'il va détruire Sodome. Bon, Abraham n'a pas dit « Amen ». Il aurait pu dire aussi « Amen ». Mais qu'est-ce qu'il va dire? Ah non, ne fais pas ça. Peut-être qu'il y a quelques fidèles là-bas, peut-être 50. Et Dieu dit de l'autre côté, non, il n'y a pas deux, il n'y a pas 50. Il dit, bon, pardonne-moi, mais je ne doute pas, mais et s'il y en avait 40, est-ce que vous ne pouvez pas épargner? Il y a eu toute une discussion. Mais ce qui était écrit dans les Écritures, dans la Bible, et tout ce que nous sommes en train de lire, pourquoi ces choses ont été écrites? Si vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens 10, on nous dit que cela a été écrit pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus au siècle présent, nous lisons. Les autres, ils ont vécu cela. Mais quand nous voyons, en revenant un peu, les dialogues entre Abraham et avec Dieu, Mais Abraham n'était pas là pour dire Amen comme je vous dis. Amen, Amen, Amen. Non, sinon Dieu ne serait pas venu pour écouter Amen. Il voulait comprendre ce que dirait Abraham, ce qui signifie nous, enfants d'Abraham. Dieu veut t'écouter. Il veut que tu parles. Il veut que tu t'exprimes. Tu as un cœur, tu as un sentiment. Tu souhaites être triste, tu peux être dans le bonheur, tu peux souffrir. Hein? Mais il ne faut pas qu'on te mette des souliers qui te font mal aux orteils. Et tu dis, ça va, oui, ça va, ça va, ça va. Oui, mais dans un kilomètre, on va voir maintenant que tu vas enlever les chaussures. Mais non, ne soyons pas comme ça. Dieu veut qu'on s'exprime. Je dois me parler. Partout dans les Écritures, nous voyons cela. Moïse a eu un dialogue avec Dieu. Même quand il a dit « tu iras vers le Pharaon », il a dit « mais non, comment je vais y aller ? Tu sais très bien que moi, j'ai un langage difficile, comment je veux faire hein? ?» Et si on me demande qui t'a envoyé ? Voilà, toute une discussion qui aujourd'hui se trouve dans notre instruction. Nous avons appris beaucoup rien qu'avec ces dialogues. Même quand il refusait de partir, moi je bégaye, je ne peux pas parler. Il dit, bon, toi, je te fais Dieu et Aaron sera ton prophète. Imaginez-vous, tu deviens Dieu maintenant. Comme le Dieu de Aaron, lui sera ton prophète. Ce que moi je te dis à toi, tu diras ça à Aaron, même à Béhaïa, mais c'est lui qui va parler. Comment Dieu est un Dieu de dialogue. Dieu parlait avec des prophètes. Il annonçait même les situations. Si vous faites ça, regardez ce qu'il y a. Il leur désignait le lieu pour partir. Avec le peuple Israël, il disait, ici, vous allez camper. En combien de temps, vous le verrez bien. Après, quand le signe venait, maintenant, il faut vous lever, aller de l'autre côté. Dieu est un Dieu dialogue. C'est-à-dire, nous sommes libres de penser, d'accepter, de refuser. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes éloignés de Dieu, mais nous discutons, nous parlons avec Dieu. Dieu a besoin d'un dialogue. Est-ce que c'est compliqué de comprendre cela? Qui est le parent qui ne voudrait pas dialoguer avec son petit-fils, même avec le langage des enfants tel qu'ils parlent? Ils ne parlent pas bien, ils parlent comme des enfants, mais ça nous plaît. Moi, personnellement, je prends beaucoup plaisir à écouter les enfants. Ça me fait rire quelquefois parce qu'ils utilisent le mot. Parfois, il prononce mal, mais vous sentez qu'il a envie de s'exprimer. Et vous sentez aussi qu'il vit. C'est ça surtout, il vit. Il dit exactement ce qu'il ressent. S'il a faim, il dit, papa, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Ou maman, je n'aime pas cette nourriture ici. Non, il n'y a pas assez de sucre. C'est ça avec Dieu. Ne donnons pas à Dieu une autre image que l'image familiale qu'il nous a présentée comme père. Ne lui donnons pas une autre image. Nous allons nous tromper. Parce que ce qui devait être dialogue, nous risquons de prendre ça comme des paroles impératives. Fais ça, allez, sors, ouais, des choses comme ça. Comme si c'était un type de juge méchant qui donne des ordres, ne fais pas ça. Non, ce n'est pas ça. Dieu est un Dieu dialogue. C'est pourquoi Jésus insiste, il faut que vous le connaissiez. Il faut les connaître. Mais comment les connaître? Nous allons les connaître quand nous comprenons qui nous sommes, qui il est, et que prenez la chose de Dieu avec simplicité comme parole venant de ton Père, dans laquelle il n'y a que l'amour et le produit de l'amour et de la paix et de la joie et de l'accomplissement de toutes les promesses. Comme nous venons de lire dans le livre de Matthieu, comme je lisais maintenant, heureux, 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 heureux. Oui, c'est vrai. Tout ce qui s'attendent et tout ce qui ils sont ses soucis, parce que Dieu peut faire ça, parce que Dieu peut guérir, parce que Dieu, heureux serez-vous. Parce que vous vous trouvez à une bonne adresse à ce moment. C'est un Dieu de dialogue. C'est un Dieu père de famille, père de parents, père de nos petits-enfants. C'est un Dieu créateur, il nous aime et nous l'appartenons. Il nous aime tellement et cet amour est si grand qu'il n'a pas hésité d'envoyer son Fils bien-aimé qui est sa parole ou l'image visible de Dieu invisible sur la croix à cause des noms. Qui n'est pas capable de comprendre cela se trouve encore lointain, loin, très loin quand on n'a pas compris cela. Parce qu'après, quand on ne comprend ça, on ne comprend pas. Mais dis-moi, comment vous allez prier à la base de quoi? Quand tu te diras qui est Dieu? Parce que tu ne comprends pas ça. Alors, on va faire la même chose comme les gens qui font des statues et ils viennent faire des sacrifices là-dessus parce qu'ils mettent la nourriture là, parce que l'arbre va manger ça. Ils évoquent même, à l'époque, ils faisaient même des sacrifices humains. Jusqu'à aujourd'hui, ça se fait, des sacrifices humains vers les idoles qui ne répondront jamais, des trucs qui sont des cultes des démons, des sataniques. Non, il faut connaître ce Dieu. Quand tu l'auras connu, tu te présenteras devant lui sans crainte. Sans crainte, mais dans l'obéissance de un amour qu'il est digne de recevoir de nous. Car il nous aime, lui le premier, nous ensuite nous répondons à cet amour. Il faut le connaître. C'est à cause de cela que je peux dire, quand on me dit, est-ce que tu es chrétien? Je vais dire, oui, je suis chrétien. Je ne le dis pas par le baptême. Je ne le dis pas par les livres et les livrets de baptême. Je ne le dis pas parce que moi, avec le pasteur ou le pape, je ne le dis pas dans ce sens. Je le dis parce que en moi vit le Christ. Et ce Christ qui est en moi, qui était jadis aux anciens, qui nous a visités au travers de Jésus-Christ, Emmanuel, et qui, par la suite, tous ceux qui ont vécu aujourd'hui, mon tour, il est avec moi, il est avec toi. Voilà pourquoi je dis que je suis chrétien. Voilà pourquoi je dis que je crois en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je peux confirmer aussi de ma part qu'il est ressuscité. Je n'ai pas besoin de lire ou d'écouter d'autres choses là-bas pour prouver qu'il est ressuscité. Ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu m'a suffisamment convaincu qu'il est ressuscité. Donc, je m'appuie sur cette expérience. Et c'est pourquoi il faut vivre avec Dieu, pour avoir des éléments qui peuvent confirmer ta foi. Quoi. Quelquefois, nous sommes invités, par exemple, à passer toute une nuit pour prier. Comment tu vas justifier ça? Le plaisir d'une nuit à faire la prière, le plaisir tout simplement, ou donner des allusions, mais ça ne servirait à rien. Si c'est le cas, dormons. Mais si nous croyons que nous faisons quelque chose avec de bonnes raisons, parce que ce Dieu est un Dieu qui existe, est un Dieu qui aime et qui nous aime, est un Dieu de promesses, est un Dieu de prophéties, est un Dieu qui sait tout, qui nous côtoie, qui a mis son esprit dans nous, le Dieu qui, par le sang de Jésus-Christ, nous a tout pardonné, et toutes ces paroles sont des paroles d'amour, paroles d'encouragement. Alors, dans ces cas-là, j'ai de bonnes raisons de faire mes sacrifices, le sacrifice de temps. J'ai de bonnes raisons de lui confier mon temps, d'être disposé pour lui, de l'écouter, de suivre et prendre beaucoup de temps de ma vie tout près de lui en rejoignant David comme il avait dit, mieux vaut un jour devant le Seigneur que 1 000 ans loin du Seigneur. Oui, je confirme cela. Plus je suis auprès du Seigneur, je vis. Mais si je me retranche du Seigneur, admettons que je prenne que mes propres paroles, mes propres problèmes, et que je mette sur la table et que je commence à raisonner sur cela. Quoi, moi, avant longtemps, tu vas te trouver embourbé et tu te diras, je ne sais pas comment faire. Revenons donc vers notre Dieu. C'est de là où nous avons de l'eau qui apaise la soif, de l'eau qui donne la vie. Venons donc vers lui. C'est une expérience de chacun, moi, avec ce que j'ai. Et c'est à la mesure de cela que notre foi va fonctionner aussi. Parce que la foi, quelque part, elle est une semence aussi. Elle doit croître, elle doit grandir. Mais ce qui fait grandir la foi, c'est cette communion avec Dieu. Et la réponse de Dieu dans le dialogue que nous faisons avec lui augmente notre foi. Et là, nous sommes prêts même à affronter quoi? Même la mort. Nous serons prêts à tout affronter. Tellement que la foi a trouvé de grandes racines et personne ne pourra nous déterrer de là où nous sommes, enracinés avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons ces choses. Et c'est bien chaque fois de revenir, de revenir, de revenir à chaque fois. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je dois voyager? Pourquoi je dois me trouver là-bas et pas ici? Pourquoi je dois prier? Pourquoi est-ce que je jeûne? Pourquoi toutes ces choses doivent obtenir les réponses. Et surtout que ces réponses fassent référence à celui qui nous a appelés dans sa sainteté. Que toutes ces réponses se trouvent là. Chaque jour, Comme il est dit, à chaque jour suffit ses peines. Toutes les peines de la journée et toutes les solutions de la journée doivent s'appuyer sur le fondement de la foi que nous avons envers le ressuscité, notre Seigneur Jésus-Christ, à la gloire de notre Père céleste. Voilà comment les choses doivent être. Et si nous gardons ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai, il y aura de l'opposition. Jésus a dit, il arrivera même à un certain temps, on vous fera mourir à cause de mon nom, et ils croiront ainsi faire plaisir à Dieu. On vous fera mourir, attention, c'est clair, il n'a pas mâché le mot. Beaucoup de gens sont en train de mourir aujourd'hui à cause de Christ. Et ceux qui les tuent, ils s'imaginent qu'ils font plaisir à Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais nous, nous connaissons Dieu. Et nous connaissons aussi le sens réel de la mort, la fin de la vie terrestre, mais aussi le début de la vie céleste, la véritable vie. Dieu est esprit. Dieu vit dans l'esprit et dans ce monde spirituel. Et c'est tout simplement la mort, c'est rejoindre notre Dieu là où il se trouve, notre lieu d'habitation. Ces jours-là, et nous comprendrons encore davantage que maintenant je vois, si même si j'ai souffert dans le monde, je me glorifie de toutes ces souffrances parce qu'aujourd'hui, je vois la raison maintenant. Nous sommes convaincus donc dans la parole de Christ. Ce n'est pas le passé qui nous force à comprendre ni à croire. Non, j'ai entendu, j'ai une âme et par moi-même, j'ai regardé et je me suis dit, c'est vrai, c'est là le chemin. Mais quand tu dis, c'est vrai, vis donc. Vis ta foi, vis ce que tu avais dit. Maintenant, mets ça en pratique autrement. Dire oui et ne vivre dans le non, alors ce serait incompréhensible. Comment nous allons expliquer cela? Je sais que ce message peut nous instruire. Ce message peut toucher quelqu'un quelque part et rentrer dans lui-même pour réfléchir. Ce message peut nous donner la vie. Ce message peut nous consoler. Ce message peut nous rassurer. Que nous sommes réellement dans le chemin de notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Père, au nom de Jésus-Christ.